Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute de ce bulletin. Voici les titres. Selon le président Klaus, la signature de l'accord américano-russe à Prague est un honneur. Le parti civique démocrate ODS menace de se retirer de la coalition gouvernementale s'il n'obtient pas les postes du parti des Verts. Et puis du sport avec du triathlon et la victoire de la Tchèque Frintova en Australie. Le président Václav Klaus a qualifié d'honneur symbolique le choix de la capitale tchèque pour la rencontre entre le président Barack Obama et son homologue russe Dmitri Medvedev le 8 avril prochain, où sera signé le nouveau traité de désarmement nucléaire START. Comme membre de l'OTAN, la République tchèque est honorée d'être l'hôte d'un événement aussi historique et symbolique, un an après la première visite à Prague du président Obama, au cours de laquelle il avait présenté sa vision d'un monde sans armes nucléaires et où il avait souligné le besoin de renforcer notre alliance. C'est ce qu'a déclaré Václav Klaus vendredi. Il a expliqué que les détails de l'organisation du sommet étaient en train d'être discutés en ce moment et que la chancellerie de la présidence préparait les différentes rencontres prévues donc pour le 8 avril prochain. Il n'y a pas de raison que l'ODS soutienne le gouvernement où Jiří Paroubek a de fait la majorité. C'est ce qu'a déclaré Petr Nečas, qui a remplacé cette semaine Mirek Topolánek comme leader de la campagne électorale du Parti civique démocrate. Dans l'édition de ce week-end du Lidové noviny, il ajoute que si son parti n'obtient pas les postes vacants laissés par le retrait des ministres verts, l'ODS retirera à son tour ses ministres. Petr Nečas critique notamment le fait que le ministère de l'Environnement, depuis la démission de son ministre, soit sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, détenu par un ministre nommé par le Parti social-démocrate. Un peu compliqué tout ça, mais si un accord n'est pas trouvé, je vois le départ du gouvernement comme une étape logique, c'est ce qu'a ajouté Petr Nečas. Le porte-parole du gouvernement, Roman Prorok, a réagi en constatant que l'ODS n'avait toujours pas répondu à l'appel du Premier ministre, qui a demandé aux deux principaux partis du pays, le CSSD et l'ODS, de lui donner leur avis sur la situation politique actuelle. Le président Václav Klaus a quant à lui indiqué que, selon son avis, il ne fallait pas remanier le gouvernement à 2 mois des élections, que c'était inutile. Les jardins situés le long du château de Prague seront à nouveau ouverts à partir du 1er avril. 3 entrées permettent d'y accéder par les jardins Wallenstein et les jardins des remparts du château. Ils sont formés d'un ensemble de 6 jardins et ce sera donc ouvert à partir du 1er avril. On passe au sport. Avec la Tchèque, je vous le disais en titre, la Tchèque Vendula Frintova qui a remporté la première manche de la Coupe du Monde de triathlon dames à Mooloolaba en Australie. Elle s'est imposée en un peu plus de 2 heures devant une Japonaise et une Britannique. Je m'entraîne dur, m'améliore de jour en jour et nous n'en sommes qu'au début de la saison. C'est ce qu'a commenté après la course Vendula Frintova, qui devient ainsi la première Tchèque à remporter une épreuve de la Coupe du Monde. De la météo, il sera question dans notre prochain bulletin. C'est d'ici 3 heures. J'espère que vous passez un excellent week-end à l'écoute de Radio Prague. Ah !
Culture sans frontières.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Culture sans frontières qu'a le plaisir de vous présenter exceptionnellement Anne-Claire Veluire. Alors le 12 janvier dernier, l'île d'Haïti, vous le savez, a connu un tremblement de terre terrible qui a fait des milliers de victimes. Toute la communauté internationale a été particulièrement touchée par la catastrophe et s'est mobilisée, la République tchèque aussi. Ainsi, cette année, le festival Afrique en création, nous sommes tous des Africains, qui s'est déroulé pendant toute la semaine dernière, a décidé d'inaugurer sa 9e édition avec une soirée de bienfaisance au bénéfice des écrivains haïtiens. Evelyne Trouillot et Jean Durosier des Rivières sont ainsi venus faire découvrir au public tchèque leur culture et leur littérature. Et première invitée, Evelyne Trouillot, qui nous fait découvrir la culture et la littérature haïtienne.
C'est une littérature très vivante. Premièrement, au niveau quantitatif, il y a beaucoup d'œuvres qui sont publiées. La qualité varie, mais il y a beaucoup d'œuvres qui sont publiées. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés à écrire. Il y a des moins jeunes, beaucoup de gens qui sont intéressés par la littérature. Et la littérature est écrite dans les 2 langues. Autrefois, elle était seulement écrite en français. Maintenant, la plupart des écrivains écrivent dans les 2 langues. Et au niveau de la qualité, Je peux dire que la littérature haïtienne s'impose de plus en plus. C'est une littérature vivante, comme j'ai dit, et qui s'impose de plus en plus à l'extérieur du pays aussi. En 2009, on a eu un ensemble de prix que les écrivains haïtiens ont reçus. Mais c'est une littérature qui ne peut pas non plus être réduite. On ne peut pas dire, voilà, des thématiques, voilà une thématique qu'il a définie, voilà un champ d'intérêt qu'il a défini, ou bien voilà un style d'écriture qu'il a défini. Je crois que c'est peut-être ça la force de la littérature haïtienne. La littérature haïtienne est vivante et diversifiée. Nous avons des écrivains qui s'intéressent à l'exil, au départ du pays. Il y a des écrivains dont toutes les actions se passent à l'intérieur du pays. Il y a des écrivains qui écrivent des histoires relationnelles. Et il y a des œuvres à caractère social. Donc il y a toutes sortes d'écrits, de thèmes. Et au niveau de l'écriture, c'est une littérature très moderne. Et aussi au niveau de la langue, c'est une langue qui se crée aussi au fur et à mesure. Parce que nous écrivons dans les deux langues. Mais l'écrivain haïtien, en général, ne mélange pas les deux langues.
Le fait aussi que les gens et que les écrivains soient bilingues, ça enrichit l'une et l'autre langue.
Ah oui, bien sûr. Les écrivains, pour la plupart, sont bilingues. Pourquoi? Parce que bon, le créole, c'est la langue maternelle, c'est la langue nationale, c'est la langue de tous les Haïtiens, et c'est une des langues officielles. Ça veut dire tout le monde parle créole. Et comme c'est une langue qui est écrite et qui a sa grammaire, qui a sa syntaxe, qui a ses règles et qui est définie, qui a ses normes, donc c'est une langue que les écrivains utilisent de plus en plus comme langue d'écriture. Mais il y a la langue française aussi, et c'était la langue de la littérature, c'était la langue exclusive de la littérature pendant longtemps. Donc, les écrivains produisent en français aussi.
Je voulais revenir un petit peu sur les thèmes de la littérature que vous avez un peu évoqués, en disant que les écrivains haïtiens s'intéressent à toutes sortes de thèmes, de thématiques. En même temps, ce soir, avec le petit échantillon qu'on a eu, j'ai eu l'impression que c'est quand même une littérature très... traumatisé par la notion d'exil. On sait que le peuple haïtien, qu'il y a énormément de, peut-être plus d'Haïtiens à l'extérieur d'Haïti que dans Haïti lui-même, ou en tout cas qui a connu énormément de, du coup, qu'il y a eu beaucoup d'émigration. Est-ce que c'est qu'une impression?
Je dirais plutôt que c'est l'immigration, la migration, que l'exil. Parce que l'exil, c'était surtout, vous voyez, quand on avait la dictature et qu'il y avait beaucoup de gens qui s'exilaient. Donc on a utilisé le mot exil et c'était vrai que certains écrivains haïtiens avaient écrit autour de l'exil. Mais maintenant, moi, personnellement, je peux parler en mon nom là. Par exemple, Bleu de Lille raconte l'histoire de ces gens-là qui sont forcés presque par la misère, par un avenir vraiment désespéré, à quitter le pays malgré eux, pour aller vers la République dominicaine où leur avenir ne sera pas meilleur. Mais on ne peut pas leur dire de ne pas partir parce que ils sont désespérés. Donc là, ce thème-là, ça, moi, ça m'interpelle énormément. Et d'autres écrivains aussi sont interpellés par ça. Mais il y a d'autres thèmes, par exemple, la dictature, par exemple, parce que nous avons quand même vécu 30 ans de dictature avec Duvalier, père et fils. Donc la dictature traverse aussi la littérature haïtienne. Les effets de la misère sur les gens, par exemple, l'amour, la relation entre les gens dans cet univers-là, comment ça se développe, comment ça s'épanouit, quelles sont les conséquences, les rapports entre les différentes catégories sociales. Il y a plusieurs thèmes qui sont touchés, qui sont, comment dire, développés par les écrivains haïtiens.
En mois de janvier dernier, le 12 janvier dernier, Haïti a connu un... catastrophe effroyable, un tremblement de terre terrible. Vous êtes écrivain, j'imagine que cette catastrophe vous a beaucoup marqué, vous personnellement, et va marquer beaucoup tous les écrivains qui l'ont connu. J'imagine que les écrivains vont en parler, vont écrire sur ça. Est-ce que c'est aussi est-ce que ça peut être une façon de penser des plaies, de est-ce que ça peut aider à reconstruire aussi le pays? Est-ce que la littérature peut servir aussi à ça?
Oui, moi je crois que bon, la littérature, bien sûr, ses conséquences sont limitées, mais la littérature peut aider à voir plus clair, peut aider à faire une certaine lumière. Par exemple, quand j'écris sur l'esclavage, c'est pour montrer que les esclaves, c'était des êtres humains aussi, comme tout le monde, et que ce qu'ils vivaient, c'était inacceptable, et qu'ils ont dû, ils ont pu garder leur dignité et un peu d'espoir, et c'est pourquoi qu'ils s'en sont sortis. avec la révolution de 1804 où Saint-Domingue est devenu Haïti. Mais bien sûr, l'écrivain se nourrit aussi des catastrophes. Il se nourrit des catastrophes, mais avec beaucoup de douleur. On reçoit cette charge de détresse et c'est encore une blessure de la faire sortir autrement. C'est comme ça que je le vis. C'est une blessure de la faire sortir autrement. Et une journaliste m'avait posé cette question au lendemain du séisme, justement. Est-ce que le séisme va vous servir d'inspiration? Je suis sûre qu'il y a des écrivains, moi compris, on va pas s'inspirer, mais on va utiliser ce qu'on a vécu, bien sûr, dans nos textes. Et peut-être que ça aidera les gens qui ont vécu à dépasser ce traumatisme, et on l'espère. Je crois que c'est très dur. Pour moi, c'était une situation très très dure, même si je n'ai pas perdu de gens personnellement. Mais je crois que pour le pays, qui justement était arrivé à un stade, non pas où tout allait bien, mais on était quand même sur une voie et on aurait pu progresser, ça nous a fait régresser énormément, énormément. Mais moi, je crois que la littérature, la musique, la peinture va s'en inspirer, c'est normal aussi. Et j'espère simplement que ça nous permettra de dépasser.
Jean Durosier Desrivières est poète, écrivain et dramaturge. Il était également présent lors de cette soirée. On l'écoute.
J'ai été invité d'abord par ETC Caraïbes, écriture théâtrale contemporaine en Caraïbes, dont la présidente est Danielle Vendée. Ben, puisque tout de suite après le séisme en Haïti, Danielle Vendée s'est beaucoup soucié des auteurs de TC, dont j'en suis un. Et là, quand elle a eu le message, tout de suite ça a circulé sur Internet et elle a mobilisé un petit peu tous les membres de l'association, tous, je dirais, les sympathisants de TC. Donc quand elle m'a parlé de ce festival, nous sommes tous africains création à Prague. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Et comme je deviens de plus en plus attentif, je dirais, aux signes, et je me suis dit... Oh, c'est une belle occasion parce que je lisais Kundera, j'ai l'impression que Prague était déjà, je connaissais déjà Prague dans un certain imaginaire, celui de Kundera, et moi aussi qui est devenu le mien dans la mesure où j'ai habité cet imaginaire-là.
Le lien avec Kundera est intéressant pour plusieurs choses. Alors évidemment, Kundera, un écrivain tchèque ou d'origine tchèque extrêmement connu, mm-hmm. et qui a beaucoup écrit sur la notion, l'idée d'exil.
De l'exil, mais aussi de l'émigration, par exemple. Moi, j'avais déjà lu de Kundera... Les soutables légèretés de l'être, bien entendu, la lenteur, l'identité, et l'œuvre qui me manquait, l'ignorance, qui rentre dans une, ce qu'on appelle une trilogie. Et encore, je reviens à cette idée d'attachement au signe depuis quelque temps. Voilà un livre qui était dans ma bibliothèque, ça fait quelque temps quand même, et que je n'ai jamais ouvert. Et il a fallu que j'aille en France d'abord, que je vienne en France, que je passe par les États-Unis, que je retourne chez moi en Haïti, qui est le séisme, et que je retourne en Martinique, et que je décide de lire Kundera, parce que je sais que j'irai à Prague, je me suis dit, je vais me replonger dans Kundera. Et l'ignorance, voilà un récit qui me prend, comment dire, ça a été une sorte de quelque chose, en plein visage, parce que ça parle de quoi? Ça parle, en fin de compte, de deux personnages qui ont émigré pendant l'installation en 1968, je crois, du régime communiste. C'est une femme, donc l'un des personnages qui a émigré en France, et l'autre personnage, l'autre protagoniste, au Danemark. Bien entendu, celui qui est au Danemark et celle qui est en France, donc rêve de retourner au pays, il y a une sorte de mal du pays, et ça a été ça un peu, moi, cette nostalgie, ce désir après 10 ans passé à l'extérieur, de vouloir retourner chez moi. Donc, similitude. Mais dans autre chose, c'est que je vais découvrir chez Kundera, c'est là que tu comprends, même si l'idée était en moi aussi, c'est cette manière de définir la nostalgie qui est le mal du pays, mais aussi qui est une souffrance de l'ignorance. Et là, je me dis, mais ça fait longtemps que j'ai ça, il a fallu que je fasse cette expérience du retour, que je vive ce que j'ai vécu, et voilà, qu'une réponse, qu'un élément de réponse me soit donné, en tout cas, ne serait-ce que pour comprendre. Parce qu'en forme, c'est pourquoi la nostalgie est une souffrance de l'ignorance. Parce que quand tu laisses ton pays, tu laisses Haïti, moi, je laisse Haïti. Mais on rêve de retourner, mais en même temps, on rêve de retrouver le pays qu'on a laissé, on a une image, d'où l'utopie du retour, on a une image d'un pays qui n'est plus. Donc, je suis parti, mais je ne sais pas ce que l'autre devient, je ne sais pas ce que le pays devient. Donc, il y a une ignorance. Et donc, le mal dont, que l'on a, c'est en même temps un mal de l'ignorance. La douleur que l'on a, cette douleur de ne pas être chez soi, mais c'est une douleur de l'ignorance.
Je vais vous poser une question que j'ai un peu du mal à poser à Evelyne Truyot, dans le sens où ça me donne le sentiment un peu, enfin, d'être un peu impudique, mais on est obligé au bout d'un moment de vous poser la question sur le séisme donc du 12 janvier dernier. Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'écrivain, que la littérature a le pouvoir pourra aider un peu à exorciser ce traumatisme qu'a connu le pays?
Tout à fait. Et la preuve la plus flagrante, c'est que on a bien vu tout de suite après le séisme qu'il y avait une manière d'orienter les informations, une manière de présenter Haïti, de dire bon voilà, de dire qu'il y a que des pillages, qu'il y a que c'est dans cette logique de dire que toujours quand on parle d'Haïti, les choses ne vont pas. Donc c'est la violence, c'est les pillages, etc. Alors il a fallu que les écrivains prennent le devant de la scène pour dire non, il n'y a pas ça. Nous, on a assisté à la solidarité des Haïtiens entre eux. Parce qu'un exemple simple, et je m'arrête là, vous comprendrez aisément. Je trouve qu'il y ait un élan de générosité, qu'on ait plus de 2000 volontaires secouristes qui débarquent au pays pour aider à sauver des vies, mais qu'ils sauvent 168 âmes, bien, aucun souci, mais que ce soit ça qui passe dans tous les journaux, dans tous les médias internationaux, ça devient ridicule pour moi par rapport à la population qui était solidaire, qui a sauvé plus de 10 000 personnes quand même, avec des moyens précaires. Donc en ce sens, je pense que oui, la littérature peut quelque chose, les écrivains peuvent faire quelque chose pour aider à exorciser un petit peu ce mal, en tout cas, qui...
Voilà, c'était Evelyne Truyot et Jean Desrivières sur la littérature haïtienne pendant leur passage au festival Afrique en création. Merci d'être resté à l'écoute de cette émission. Tout de suite, la suite du programme avec votre rubrique touristique.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Bienvenue pour un nouveau guide touristique sur Radio Prague, le premier diffusé à l'heure d'été. Direction aujourd'hui l'avenue Napříkopě, l'une des artères principales du centre de la capitale tchèque, bordée d'immeubles qui sont de vrais bijoux architecturaux. Cette célèbre avenue serait la 18e rue la plus chère au monde, selon un magazine d'études de marché. Cette année, on fête le 250e anniversaire de sa construction, sur les anciennes douves qui bordaient depuis 1230 les remparts de la vieille ville. Zone piétonne depuis 1984, par laquelle près de 60 000 personnes passent chaque jour, l'avenue Napříkopě est l'une des adresses chics pour faire du shopping à Prague. Les grandes marques de luxe côtoient les joailliers, les cafés et les restaurants. L'avenue est aussi une vitrine du monde de la finance. En français, le nom Napříkopě veut dire « sur le fossé ». Au moment de la création, il y a 250 ans de cela, de cette rue, elle s'appelait dans les allées ou encore Untre den Linden sous les tilleuls. Selon les nouvelles allées de tilleuls, devant transformer l'endroit en promenade emblématique de la métropole. C'est donc en 1760 la disparition définitive des fossés séparant la vieille et la nouvelle ville pragoise. Les premières tentatives de les combler remontent toutefois au XIVe siècle et sont liées à la fondation de la nouvelle ville, suite à laquelle le rôle défensif des douves perd peu à peu de l'importance. Quelques vestiges du système de fortification ont été sauvegardés à l'endroit dénommé aujourd'hui Namoustko, selon un ancien pont enjambant autrefois cet endroit le fossé des remparts. Les vestiges de ce pont sont à voir à l'entrée de la station du métro du même nom, Namoustko, en bas de la place Venceslas. On écoute l'archéologue Zdeněk Dragoun de l'Institut du patrimoine national.
to, co vidíme tady, je vlastně další fáze toho můstku. Je to jedna.
Ce que nous voyons ici, c'est une partie de l'ancien pont, l'un de ces deux murs à arches en pierre construits en parallèle et sur lesquels reposait la couverture en bois du pont. Le pont avait l'avantage consistant dans la possibilité d'enlever en cas de nécessité les parties en bois, grâce à quoi le fossé pouvait à n'importe quel moment accomplir son rôle défensif.
Les vestiges de l'ancien pont médiéval ont été découverts lors de la construction de la ligne A du métro pragois au milieu des années 1970. Autre témoin des remparts médiévaux, la tour poudrière Prashna Brana, érigée dans la continuité des remparts en direction de l'actuelle place de la République. Deux autres tours faisant autrefois partie du système de fortification de la vieille ville ont été sauvegardées à Prague, mais elles restent entièrement cachées au public car elles sont situées à l'intérieur d'une cour entourée des bâtiments de la police et de l'Institut de criminalistique à la rue Bartolomieska. Les douves médiévales s'étendaient autrefois le long des remparts dans la ligne des rues dont l'une s'appelle aujourd'hui la rue Revolucini et qui est celle qui prolonge l'avenue Naprikopie vers le nord-est. Dans le sens inverse, au-delà de l'endroit dénommé la Croix d'Or qui ouvre la place Venceslas, le prolongement de l'avenue Naprikopie s'appelle la rue du 28 octobre et elle débouche sur l'avenue Narogny. Toutes les rues portaient jusqu'au XVIIIe siècle une appellation unique. N'a pris copié sur le fossé. Aujourd'hui, seule une partie de cette longue voie médiévale a gardé son nom d'origine. Les douves étaient alimentées par les eaux de la Vltava et par de petits ruisseaux aujourd'hui inexistants. Depuis le XVIe siècle, elle est un réceptacle d'ordures dans lequel se déchargeaient également les eaux usées. Les fossés dégageaient une odeur dérangeante qui se propageait à l'intérieur des maisons aux alentours, observe Katerina Bečková du club de la vieille Prague et auteur du livre « Parc disparu ».
Ze strany starého města do všech těch, do tohoto hradebního okruhu.
Du côté de la vieille ville, seuls les arrière-cours de logis ou encore les murs de jardin étaient orientés vers les fossés, alors que du côté de la nouvelle cité, c'étaient les façades des maisons. Ceci a créé une disproportion énorme, compte tenu du fait que pour la nouvelle ville, c'était une véritable voie, alors que pour la vieille ville, ce n'était qu'une périphérie.
Skutečnou ulici, staré město. Vlastně to byla periferie.
Les eaux résiduaires se déversaient dans la Vltava, qui était en même temps une source d'eau potable pour Prague. L'an 1760 a mis un terme définitif à cette situation devenue intenable. On écoute Katerina Bečková.
V roce 1780 byl zasypán příkop.
En 1780, on a comblé la dernière partie du fossé à l'actuelle avenue Národní. À l'époque, elle s'appelait dans les nouvelles allées, d'après les arbres nouvellement plantés. Si la rue Naprikopie était plantée de tilleuls, dans le cas de Národní, on a opté pour des châtaigniers.
V nových alejích a zde byly vysázeny nikoli lípy, ale kaštany.
Des cartes historiques documentent les transformations que la rue Naprikopie sur le fossé a subies au fil du temps. Son importance en tant qu'artère commerçante a encore augmenté après 1875, date de la mise en service des véhicules à traction hippomobile dans le centre de Prague. Le croisement des routes Naprikopie et Namoustkou, en bas de la place Venceslas, a été le premier à Prague à être régulé par un agent de police. Depuis 1984, l'avenue Naprikopie est une zone piétonne. Arrêtons-nous encore un instant devant la tour poudrière qui est aujourd'hui le dernier vestige visible des remparts médiévaux entourant la vieille ville. Cette tour défensive dont la construction a commencé en 1445 sous le règne de Vladislas de Jagellon était reconvertie au XVIIIe siècle en dépôt de poudre noire, d'où son nom. Aujourd'hui, il est possible de grimper à son sommet pour une vue panoramique de la ville. L'édifice est inspiré de la tour de la vieille ville du pont Charles. Sa riche décoration sculptée devait mettre aussi en valeur le palais royal adjacent qui se trouvait sous l'emplacement de l'actuelle maison municipale de style Art Nouveau et qui était la résidence des rois de Bohême entre 1384 et 1485. La tour poudrière, gravement endommagée pendant l'occupation prussienne de la ville de 1757, a été presque entièrement reconstruite en 1876 par Joseph Mocker dans un style néo-gothique. Ainsi s'achève le programme en français sur Radio Prague. Nous vous remercions de votre attention. L'actualité tchèque continue sur notre site internet www.radio.cz. Au revoir. Na shledanou.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0.30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.